Chapitre 6 à 9 Le déluge. Chapitre 6 et 7 L'union de ce qui est saint avec ce qui est profane. Énoch a disparu de la scène, sa vie d'étranger et de voyageur sur la terre s'éclose par son enlèvement au ciel avant que le mal soit arrivé à son comble et que les jugements de Dieu tombent sur les habitants de la terre. Et il arriva, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Chapitre 6, versets 1 et 2. Le mélange de ce qui est de Dieu avec ce qui est de l'homme est une forme spéciale du mal et un puissant moyen entre les mains de l'ennemi pour gâter le témoignage de Christ sur la terre. Ce mélange revêt fréquemment de belles apparences. On le prendrait volontiers pour une expression plus grande de ce qui est de Dieu. Mais nous porterons un jugement bien différent si nous nous plaçons dans la lumière de la présence de Dieu. Ne nous imaginons pas qu'il puisse jamais y avoir profit pour le peuple de Dieu à se mêler avec les enfants de ce monde. Un alliage humain ne peut que corrompre la vérité de Dieu. Ces deux premiers versets nous font voir de quelles désastreuses conséquences fut suivie l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes. Au jugement de l'homme, le fruit de cette union pouvait paraître fort beau. Ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. Verset 4. Mais Dieu juge bien différemment. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Verset 5. Telle était la condition de l'homme devant Dieu. Elle n'était que méchanceté, méchanceté en tout temps. Et l'union de ce qui est saint avec ce qui est profane n'amènera jamais d'autres résultats. De nos jours, on court grandement le risque de compromettre la vérité pour l'amour de l'union, et nous devons nous en garder avec soin. On n'obtient pas de véritable union aux dépens de la vérité. Maintenir la vérité à tout prix? Telle doit être la devise du chrétien. Si, dans cette voie, vous pouvez propager l'union, c'est très bien. Mais avant tout, maintenez la vérité. Le principe des accommodements dit au contraire « propagez l'union à tout prix, et si dans cette voie vous pouvez maintenir la vérité, tant mieux. » Il n'y a pas de vrai témoignage là où la vérité est compromise. Dans le monde antédiluvien, l'union impure de ce qui était saint avec ce qui était profane, de ce qui était divin avec ce qui était humain, eut pour effet d'amener le mal à son comble. Et alors, le jugement de Dieu tomba sur le monde. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé. » Verset 7. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Tout en faisant de Noé le dépositaire de ses pensées à l'égard de la scène qui l'entourait, l'Éternel lui annonça le moyen de salut qu'il avait préparé pour lui. « La fin de toute chair est venue devant moi. Fais-toi une arche de bois de gopher. » Versets 13 et 14. La parole de l'Éternel avait pour effet de montrer le vrai caractère de toutes les choses desquelles l'homme pouvait se glorifier. Le cœur de l'homme pouvait s'enfler d'orgueil quand il parcourait du regard la foule brillante des hommes d'art et des hommes de génie, des hommes vaillants et des hommes de renom. Les sons de la musique l'enchantaient, tandis que l'industrie et l'agriculture pourvoyaient abondamment à tous les besoins de sa vie. Tout cela semblait bannir bien loin la pensée d'un jugement prochain. Mais Dieu dit « J'exterminerai ». Et ces paroles solennelles jettent leur ombre lugubre sur toute la scène. Mais peut-être le génie de l'homme inventera-t-il quelque moyen d'échapper ? Non. Il n'y a qu'un moyen d'échapper, et ce moyen est révélé à la foi. Par la foi, Noé étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit, et bâtit une arche pour la conservation de sa maison, et par cette arche il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Hébreux 11, verset 7. La parole de Dieu répand sa lumière sur toutes les choses qui trompent le cœur de l'homme. Elle enlève le voile doré, dont le serpent recouvre un monde vain et trompeur, sur lequel est suspendue l'épée du jugement de Dieu. Mais la foi seule reçoit l'avertissement de Dieu, lorsque les choses qu'il annonce ne se voient pas encore. Elle est gouvernée par la seule parole de Dieu, ce trésor inestimable dans un monde de ténèbres. Foi en la parole de Dieu. Lorsque Dieu a parlé à Noé d'un jugement prochain, aucun signe ne l'annonçait. Le jugement ne se voyait pas encore, mais la parole de Dieu en a fait une réalité présente pour le cœur de Noé. La foi n'attend pas de voir pour croire, car la foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Tout ce qu'il faut à l'homme de foi, c'est de savoir que Dieu a parlé. Cela suffit pour lui communiquer une certitude parfaite. Une seule ligne de l'Écriture suffit pour répondre à tous les raisonnements de l'esprit humain, et celui dont les convictions sont fondées sur la parole de Dieu peut résister aux vagues et aux flots des opinions du monde entier. C'est par la parole de Dieu que le cœur de Noé a été soutenu pendant tout le temps de son long service, et c'est par cette même parole que des milliers de saints ont été soutenus depuis les jours de Noé jusqu'à maintenant, en face de l'opposition et de la contradiction du monde. Sans la parole de Dieu, tout est incertitude. Avec elle, tout est paix et lumière. Partout où cette parole vient briller, elle trace à l'homme un sentier sûr et heureux, tandis que celui dont la voie n'est pas éclairée par elle est réduit à errer au milieu du labyrinthe des pensées humaines. Noé aurait-il été capable d'être un prédicateur de justice pendant 120 ans si la parole de Dieu n'avait pas été le fondement de sa prédication? 2 Pierre 2, verset 5. Comment a-t-il pu résister aux moqueries et au mépris d'un monde impie? Comment a-t-il pu proclamer l'approche d'un jugement à venir lorsqu'aucun nuage n'apparaissait à l'horizon du monde? La parole de Dieu était le fondement sur lequel il s'appuyait, et l'Esprit de Dieu le rendait capable de demeurer, dans une sainte fermeté, sur ce fondement inébranlable. Et nous, lecteurs chrétiens, qu'avons-nous d'autre pour demeurer fermes dans notre service pour Christ dans les jours mauvais que nous vivons? Rien, assurément. La parole de Dieu et le Saint-Esprit, par lequel seule cette parole peut être comprise et mise en pratique, sont tout ce qu'il nous faut pour être parfaitement accomplis pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Quel repos pour nos cœurs! Nous avons la parole de Dieu, pure, incorruptible et éternelle. Puissions-nous rendre grâce à Dieu pour ce trésor inestimable. L'imagination des pensées du cœur de l'homme n'était que méchanceté en tout temps. Mais Noé trouvait son refuge, le parfait repos de son cœur, dans la parole de Dieu. Le moyen de salut. Et Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi. Fais-toi une arche de bois de gopher. » Chapitre 6, versets 13 et 14. Ces paroles nous disent l'état de ruine de l'homme et le salut de Dieu. Toute chair est devenue mauvaise et avait corrompu sa voie, et la corruption était sans retour. Alors, le moment était venu pour Dieu de détruire complètement toute chair et en même temps de sauver le seul homme juste existant alors, de même que ceux qui se trouvaient unis à lui. Cela illustre, d'une manière saisissante, l'enseignement de la croix. D'un côté, le jugement de Dieu sur l'homme et toute sa perversité. D'un autre côté, la révélation de la grâce de Dieu dans toute sa plénitude. La croix, en révélant le jugement de Dieu sur toute chair, révèle aussi le salut aux pécheurs coupables et perdus. Là, le péché est parfaitement jugé, le pécheur parfaitement sauvé, et Dieu parfaitement révélé et glorifié. Si nous ouvrons la première épître de Pierre, nous y trouvons des enseignements précieux sur le même sujet. Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit, par lequel aussi étant allé, il a prêché aux esprits qui sont en prison, qui ont été autrefois désobéissants quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, tandis que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre, savoir 8 personnes, furent sauvés à travers l'eau. 1 Pierre 3, versets 18 à 20. Ce passage jette une grande lumière sur la liaison entre l'arche et la mort de Christ. Comme au déluge, ainsi dans la mort de Christ, toutes les vagues et tous les flots du jugement de Dieu ont passé sur ce qui, en soi, était sans péché. La création fut ensevelie sous les flots de la juste colère de Dieu, et l'Esprit de Christ s'écrit au psaume 42 « Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi ». Toutes les vagues et les flots de la colère divine ont passé sur la personne pure et sans tache du Seigneur Jésus, alors qu'il était pendu au bois, et par conséquent, aucune de ces vagues n'aura à passer sur celui qui croit. Au calvaire, nous voyons en vérité les fontaines du grand abîme rompues et les écluses des cieux ouvertes. Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cataractes. Psaume 42, verset 7. Christ a bu la coupe de la colère divine. Il a pris judiciairement sur lui tout le poids de la responsabilité de son peuple et a glorieusement satisfait à toute cette responsabilité. L'âme du croyant trouve ici une paix assurée. Car si le Seigneur Jésus a affronté tout ce qui pouvait être contre nous, s'il a vidé pour nous la coupe du jugement divin, s'il a ôté le péché, ne jouirons-nous pas d'une paix assurée? C'est la part que l'amour rédempteur peut nous donner avec justice, en vertu de l'œuvre que Christ a parfaitement accomplie. Parfaite sécurité dans l'arche. Noé avait-il crainte des eaux du jugement de Dieu? Certainement pas. Il était élevé par elle hors d'atteinte du jugement. Son arche flottait en paix au-dessus des eaux qui avaient servi à la destruction de toute chair, et c'est Dieu lui-même qui l'y avait placé. L'Éternel lui avait dit « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. » Chapitre 7, verset 1. Puis, quand il y eut pris place, l'Éternel ferma l'arche sur lui. L'arche était un sûr asile pour chacun de ceux que Dieu y avait appelés. L'Éternel gardait la porte, et, sans lui, nul ne pouvait ni entrer ni sortir. Par la fenêtre, Noé pouvait regarder en haut, d'où le jugement était sorti, et voir qu'il était passé pour lui. La famille sauvée ne pouvait regarder qu'en haut, car c'est là que la fenêtre était située. Chapitre 6, verset 16. Noé et les siens ne pouvaient voir ni les eaux du jugement, ni la désolation qu'elles avaient causée. Ils ne pouvaient regarder qu'en haut et voir le ciel, demeure éternelle de celui qui avait condamné le monde et les avait sauvés. La parfaite sécurité de celui qui croit en Christ est magnifiquement illustrée par les paroles « L'Éternel ferma l'arche sur lui. » Chapitre 7, verset 16. Qui pourrait ouvrir quand Dieu a fermé? La porte de l'arche avait été fermée par la même main que celle qui avait ouvert les écluses des cieux et rompu les fontaines du grand abîme. De même, Christ est celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Apocalypse 3, verset 7. Il tient les clés de la mort et du Hadès. Apocalypse 1, verset 18. Nul ne peut, sans lui, franchir les portes du tombeau pour entrer ou sortir. Il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Il est chef sur toute chose. Éphésiens 1, verset 22. Le croyant est en parfaite sécurité. Qui pourrait toucher à ceux qui, par la foi, se sont réfugiés à l'ombre de la croix? La mort de Christ a répondu triomphalement à toutes les difficultés et sa résurrection est la déclaration de la parfaite satisfaction de Dieu en l'œuvre accomplie. En vertu de celle-ci, sa justice peut nous recevoir. La porte de notre arche étant donc ainsi mise en sûreté par la main de Dieu lui-même, nous n'avons qu'à jouir de la fenêtre, en d'autres termes, à marcher dans une heureuse et sainte communion avec celui qui nous a sauvés de la colère qui vient et qui nous a fait héritier de la gloire à venir. L'apôtre Pierre parle de celui qui est aveugle et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois. De Pierre 1, verset 9. Cette lamentable condition est la part de quiconque néglige d'entretenir, dans un esprit de prière, une communion habituelle avec celui qui nous a mis à l'abri en Christ pour l'éternité. Une porte fermée. Arrêtons-nous un instant sur les hommes auxquels Noé a si longtemps prêché, et qui sont restés en dehors de l'arche. Plus d'un regard inquiet dut suivre le vaisseau à mesure qu'il s'élevait avec les eaux, Mais hélas, la porte était fermée. Le jour de grâce était passé, et pour toujours. La main qui avait fermé la porte sur Noé en avait exclu ceux qui étaient dehors. Ceux qui étaient restés en dehors de l'arche étaient irrévocablement perdus. Le long support de Dieu, aussi bien que le témoignage de son serviteur, avait été méprisé par les hommes, absorbés qu'ils étaient dans les choses présentes. On mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint, et les fit tous périr. Luc 17, verset 27. En elle-même, toutes ces choses n'étaient pas mauvaises. Le mal n'était pas dans ces choses, mais dans ceux qui les faisaient. Chacun des actes qui sont mentionnés ici peut être accompli dans la crainte du Seigneur et à sa gloire. Mais hélas, la foi manquait. La parole de Dieu était rejetée. Dieu avait parlé de péché et de chute, et les hommes n'avaient pas été convaincus. Dieu leur avait parlé de salut, mais ils n'y avaient pas pris garde. Ils avaient agi sans se soucier de Dieu, comme si la terre leur avait appartenu en vertu d'un bail à perpétuité. Dieu était exclu de leurs pensées. Ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Lecteur, souvenez-vous de ces paroles du Seigneur Jésus. Comme il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. Ou à la venue du Fils de l'homme. Luc 17, verset 26, Matthieu 24, verset 37. Certains cherchent à nous persuader qu'avant l'apparition du Fils de l'homme, dans les nuées du ciel, la justice couvrira la terre d'un pôle à l'autre, et que nous devons vivre dans l'attente d'un règne de justice et de paix, produit par des instruments actuellement à l'œuvre. Mais le court passage que nous venons de citer coupe à la racine ces espérances illusoires. La justice couvrait-elle la terre au jour de Noé? L'Écriture nous répond que la terre était pleine de violence, que toute chair avait corrompu sa voie sur la terre, que la terre aussi était corrompue devant Dieu. Eh bien, il en sera ainsi à la venue du Fils de l'homme. La justice et la violence ne se ressemblent guère, pas plus que la méchanceté universelle et la paix universelle. Il suffit d'avoir un cœur soumis à la parole pour comprendre le vrai caractère des jours qui précéderont immédiatement la venue du Fils de l'homme. Que le lecteur ne se laisse pas égarer, mais qu'il s'incline avec respect devant l'Écriture. Qu'il considère quelle était la condition du monde dans les jours avant le déluge, et qu'il se souvienne que, comme il en était alors, ainsi il en sera à la fin de la période actuelle. Soyez réconciliés avec Dieu. Ceux qui sont à l'abri du jugement, qui va s'abattre sur ce monde, devraient davantage sentir leur responsabilité d'avertir ceux que ce jugement va bientôt atteindre. Voici, c'est maintenant le temps agréable. Voici, c'est maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Dieu appelle. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, verset 19. Maintenant, Dieu réconcilie. Bientôt, il jugera. Maintenant, Dieu pardonne le péché par la croix. Alors, il le punira par les peines éternelles. Maintenant, Dieu fait publier un message de grâce. Il parle aux pécheurs d'une rédemption achevée par le précieux sacrifice de Christ. Il déclare que tout est accompli. La patience de notre Seigneur est salut. 2 Pierre 3, verset 15. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Combien tout cela rend le temps présent solennel. Une grâce sans mélange est annoncée, mais le jugement suspendu est prêt à éclater. L'Écriture répand sa lumière sur toute chose. Par elle, nous n'en sommes pas réduits à regarder les événements qui se succèdent avec l'étonnement de ceux qui ne savent ni où ils sont ni où ils vont. Nous pouvons et nous devrions avoir une connaissance exacte de notre situation. Les hommes peuvent se nourrir de la pensée que demain sera comme aujourd'hui, et encore bien supérieur. Ésaïe 56, verset 12. Mais combien est vaine cette espérance? La foi voit les nuages s'amonceler à l'horizon du monde et le jugement s'approcher. La porte va se fermer. L'énergie d'erreur dont parle l'apôtre Paul va commencer à agir. 2 Thessaloniciens 2, verset 11. En vue de ces choses, n'avons-nous pas à élever une voix d'avertissement, même s'il faut, par un témoignage fidèle, troubler la dangereuse quiétude des hommes? Sans doute, de même qu'Akab accusait Michée, le monde nous accusera de ne prophétiser que du mal, mais qu'importe. Prophétisons ce que prophétise la parole de Dieu. L'amour vrai, l'amour de Dieu ne crie pas « paix, paix » lorsqu'il n'y a point de paix. Jérémie 6, verset 14, Jérémie 8, verset 11. Il n'enduit pas non plus le mur de mauvais mortier. Ézéchiel 13, verset 10. Dieu veut que le cœur du pécheur se repose en paix dans l'arche de la sécurité éternelle, qu'il goûte dès à présent sa communion, ayant la ferme espérance de jouir avec lui de repos dans une création renouvelée, alors que la désolation et le jugement auront passé pour toujours.